Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes.
Bonsoir à tous et très très heureuse année 2024. J'espère que vous allez être très heureux cette année. Donc nous allons continuer notre série sur étoiles et trous noirs par la synthèse des métaux. Donc le plan de cet exposé sera d'abord l'abondance des éléments que l'on voit dans l'univers. On va essayer de le reproduire. Comment sont-ils faits? Donc on va voir que l'abondance dépend de l'énergie de liaison de ces éléments, comme on le voit ici. Et puis, on va essayer de détailler ce qui est formé de façon primordiale, nucléosynthèse primordiale, nucléosynthèse dans les étoiles. Donc la fusion des étoiles en fonction de leur masse, les cycles CNO, etc. Et les processus à neutrons qui vont nous permettre de former tous les éléments les plus lourds. Et on essaiera de l'appliquer aux galaxies, c'est-à-dire d'avoir un marquage chimique pour savoir comment se forment les disques épais, les disques minces et tous les composants d'une galaxie. On va voir que ces composants chimiques sont très importants. Alors déjà, l'abondance des éléments dans le système solaire, on a ce diagramme classique. Donc abondance qui sont normalisées au silicium qui est 10 puissance 6. Donc en log, ça fait 6, vous appelez le silicium par là. Et donc en fonction du nombre de masses de l'élément. Alors on voit qu'il y a l'hydrogène d'abord, évidemment l'élément le plus abondant de l'univers c'est l'hydrogène, puis l'hélium. Enfin on a des éléments légers qui on va voir ne sont pas très abondants, qui sont une petite exception, qui sont formés par spallation, par collision, par rayon cosmique. Et puis on repart avec tous ces éléments-là pour arriver au pic du fer. Comme vous le savez, on gagne de l'énergie en fusionnant ces éléments jusqu'au fer, et puis ensuite on en perd, donc c'est plutôt en fissionnant les éléments qu'on va gagner de l'énergie. Donc tous ces éléments qui sont plus lourds vont être dus à des événements très énergiques qui vont envoyer des neutrons avec grande vitesse pour pouvoir fabriquer tous ces éléments. Et puis on a aussi, un petit peu moins abondant, des éléments où les protons dominent. On va voir comment ils sont formés. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est ces pics, justement. Pourquoi ces pics? En fait, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des nombres magiques, où les éléments sont plus stables, parce qu'il y a des couches pleines, des couches où les neutrons et protons sont plutôt en équilibre. Donc c'est pour un nombre A. Alors A, c'est le Z plus N. Z, c'est le nombre de protons dans un noyau. N, le nombre de neutrons. Donc A, c'est la somme des deux. Et pour ces nombres magiques, à la fois en nombre de neutrons ou en nombre total, qui sont ces nombres 28, 50, 82, 126. Alors le 28 correspond au fer, justement à ce pic du fer. Et puis ces trois pics-là, ce sont ces trois pics magiques. Donc on a des éléments qui sont plus stables et qui se retrouvent ici. On va voir qu'ils sont doubles ici, vous voyez, il y a des processus de formation différents pour chacun des pics. On a le fer, ici on a plutôt le zirconium, ici le barium, ici le plomb. Alors on connaît beaucoup de choses depuis ce travail très important qu'ont fait ces auteurs-là. Alors, on les appelle B2FH, pourquoi? Parce que c'est le couple Burbidge, Margaret et Geoffroy Burbidge que vous voyez là, William Fowler et Fred Hoyle, qui étaient réunis là pour un anniversaire de cet article qu'on appelle B2FH, sorti en 1957, c'est un très gros article qui reprenait la somme de la formation de ces éléments et était très, avec beaucoup de succès, car il reproduisait toute l'abondance observée dans l'univers, dans les étoiles, et essayait de reproduire dans quelles étoiles on formait tous ces éléments. Donc vous voyez un petit peu les grandes lignes ici, selon les ellipses qui sont de couleur. Ici on a les éléments formés dans les premières minutes de l'univers, la nucléosynthèse primordiale, donc hélium, évidemment deutérium, et puis quelques-uns de ces éléments légers, mais qui sont surtout formés par collision avec rayon cosmique d'éléments plus lourds comme le carbone, l'azote, l'oxygène qui sont ici. Mais pourquoi? Parce que ces éléments, bon, ils sont formés au début puis ensuite ils sont détruits dans les étoiles, donc il faut les reformer par cette collision. Ensuite il y a évidemment le brûlage de l'hydrogène, ce qui se passe dans le Soleil, dans toute la séquence principale des étoiles. On brûle l'hydrogène pour former l'hélium et c'est ce qui fournit l'énergie. Donc ce brûlage, et puis peu à peu dans les étoiles de plus en plus massives, vous allez brûler l'hélium, puis brûler le carbone, le néon, etc., jusqu'au fer. Et à la fin, les étoiles très très massives ont un cœur de fer qui va peut-être se concentrer et former soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Donc ici, tout ça, ça se forme dans les étoiles. Et puis, tous ces éléments-là, la dernière ellipse-là, c'est la capture des neutrons, neutrons très énergiques, qui, on a besoin d'énergie pour former tous ces éléments, c'est endothermique, et on va voir pourquoi on a tous ces pics. Alors, pour qu'on on a un petit peu revu ce diagramme, vous voyez ici en couleur les fusions ici dans les étoiles, les formations primordiales, et puis on distingue ces deux pics. À chaque fois, il y a un double pic pour les nombres magiques. On distingue le processus rapide et le processus lent. Ce qui est en rose, c'est le processus lent. Alors, qu'est-ce que c'est que le processus lent? C'est lorsqu'on a des neutrons qui sont dégagés dans les étoiles assez massives, qui ont des réactions nucléaires assez lentes. Donc, il y a des neutrons qui sont dégagés, mais ce n'est pas explosif. Donc, c'est des neutrons lents et ça va se produire, tous ces éléments en rose. Et lorsqu'on aura une formation explosive, c'est-à-dire une supernova, qui va envoyer un grand nombre de neutrons, ou alors une fusion d'étoiles à neutrons, ce sera énormément de neutrons qui, en quelques secondes, vont dégager énormément de neutrons. À ce moment-là, on aura ces processus très rapides, et c'est ce qu'on appelle R et S pour l'anglais rapide et slow. Donc, ces deux R et S ici, on va essayer d'expliquer tous ces pics, que ce soit en A ou en Z et N, à ces nombres magiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle rapide et lent, en fait? Par rapport à quoi? Mais c'est par rapport à ce qu'on appelle la désintégration d'un neutron en proton, et en se désintégrant en envoyant un électron. Et c'est ce qu'on appelait bêta, autrefois. On ne savait pas trop, dans cette désintégration, les particules bêta, ce que c'était. Bien, bêta, c'est un électron, tout simplement. Donc, lorsqu'un neutron dégage un électron, mais ça devient un proton, on a une charge positive. Donc ce genre de réaction prend un certain temps. Alors dans certains cas, ça peut être pour des éléments éloignés des minutes ou des heures, mais en général, c'est plutôt 1 an, 5 ans. Donc rapide, ça veut dire rapide, plus rapide que la désintégration des neutrons en protons dans les noyaux. Alors l'énergie de liaison, on voit que ça dépend beaucoup de cette énergie de liaison, la stabilité des noyaux dépend de cette énergie. On voit que l'hélium a beaucoup d'énergie de liaison par rapport à l'hydrogène. On a vu que c'est justement ce qui donnait l'énergie au Soleil. On gagnait 0,7% de MC2 lorsque on fusionnait de l'hydrogène pour donner de l'hélium. Donc c'est énormément d'énergie. Et puis on en gagne un petit peu moins pour tous ces éléments-là. Et puis on en gagne jusqu'au fer, donc qui est le pic ici. Et puis ensuite ça descend. Donc on a bien une fusion qui est exothermique, qui dégage de l'énergie, donc qui tend à se faire, cette réaction, alors que celle-ci, c'est la fission que l'on utilise dans tous les réacteurs nucléaires, fission de l'uranium pour avoir de l'énergie. Donc vous voyez, c'est ce côté-là qui va nous demander de l'énergie, donc tous ces neutrons, rapides ou lents, mais assez énergiques. Alors, tout de même, il y a un problème pour obtenir cette énergie. Ici, on a un petit diagramme qui montre l'énergie potentielle lorsque on est dans le noyau. Alors, en effet, on a avantage, on a une énergie de liaison, on a avantage à réunir ces noyaux, donc évidemment, le potentiel est négatif, parce qu'on est dans le régime de la force forte, on a des gluons qui tiennent ces noyaux ensemble, mais il y a une barrière de potentiel ici lorsqu'on approche des noyaux. Alors, les noyaux, lorsqu'on se libère du nuage d'électrons qui est autour, les noyaux sont positifs. Ils ont des protons et des neutrons, ils sont positifs. Donc lorsque deux noyaux s'approchent vraiment très près, donc les électrons sont assez loin, eh bien on a une répulsion, puisqu'on a deux noyaux positifs qui ont une charge Z1 et Z2, par exemple, si Z1 est le nombre de protons de l'un et de l'autre. Donc on voit qu'on a cette énergie coulombienne à déjà une barrière à passer. Et c'est ça qui pose un problème au départ de tous les astronomes. Comment passe-t-on cette barrière de potentiel avant de tomber et de gagner cette énergie? Alors c'est là qu'on a ce fameux effet tunnel, l'effet quantique, qu'on a découvert donc au début du XXe siècle. Alors comment on peut se le représenter, en fait? Pour donner des ordres de grandeur, l'énergie thermique que l'on a à l'intérieur d'une étoile, une étoile comme le Soleil, on a peut-être au centre, on a 10 millions de degrés. Alors il faut savoir qu'on va travailler en électron-volts, hein, c'est l'énergie d'un électron qui est à 1 volt, eh bien cet électron-volt équivaut à 10 puissance 4 degrés. Donc si vous êtes à 10 millions de degrés, vous êtes à des kilo-électron-volts, hein, 10 puissance 7, donc ça fait 1 kilo-électron-volt. Donc on a une énergie d'un kilo-électron-volt dans les noyaux au cœur des étoiles. Par contre, quand vous regardez l'énergie coulombienne de répulsion de ces noyaux, eh bien cette énergie, c'est en millions d'électron-volts qu'elle s'exprime. Donc c'est 1000 fois plus que le kilo-électron-volt. Donc cette barrière, elle fait 1000 fois plus que l'énergie thermique des noyaux à l'intérieur du cœur de l'étoile. Donc vous voyez que ce n'est pas une petite barrière, c'est vraiment une barrière d'un millier de fois plus de l'énergie qu'on possède. Donc c'est un petit peu le diagramme qui est écrit ici. Vous avez l'énergie thermique est ici. Donc on a une maxwellienne autour de l'énergie thermique, et puis on a peut-être quelques-uns, mais très peu. Et puis on a cet effet tunnel. Alors cet effet tunnel, on peut le calculer. On sait que c'est très peu probable de passer à travers cette barrière, mais on a une certaine évanescence. On peut quand même, à une probabilité très faible, on peut exprimer cette probabilité comme l'exponentielle de moins le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde de Bruegg, de cette particule quantique qui a une certaine taille, qui est h, la constante de Planck, sur mv, la vitesse relative de ces noyaux. Donc si vous calculez cela, je ne veux pas ces calculs, mais en fait on s'aperçoit que c'est cette courbe-là. Donc à ce moment-là, on a le produit de ces deux qui va nous donner une probabilité qui est non nulle, qu'on appelle d'ailleurs le pic de Gamow. C'est Gamow qui avait trouvé cette probabilité-là. Et cette probabilité est non nulle, et ça permet de passer cette barrière de potentiel coulombienne. Mais en fait, la probabilité est très faible. C'est pour cela qu'au départ, on avait vu que les réactions proton-proton étaient très longues à démarrer et qu'elles prenaient parfois un milliard d'années. Alors, pour la stabilité des noyaux, donc on a ce diagramme entre le nombre de protons et le nombre de neutrons. Alors, pourquoi au départ on a des noyaux où le nombre de neutrons et le nombre de protons est égal? Comme par exemple le carbone, 6 protons et en tout 12 nucléons, et puis l'oxygène aussi, 8 et 16 par exemple, c'est vraiment égalité. Donc c'est ici. Par contre, on voit que pour des grands nombres de masses, on va avoir besoin de plus de neutrons. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que justement, les gluons et la force forte qui maintient tous ces protons ensemble, alors que ces protons se repoussent de façon coulombienne, eh bien, elles ne sont plus assez fortes. Cette force forte n'est plus assez forte lorsqu'on en a beaucoup, c'est-à-dire que lorsque Z1 est assez grand, Z, le nombre de protons, et donc on a besoin de plus de neutrons pour apporter plus de force de gluon, sans apporter de charge. Donc pour avoir une stabilité de noyau, il faut beaucoup plus de neutrons et diluer un peu la force coulombienne des protons entre eux par rapport à la force forte qui est à courte portée, hein, juste dans le noyau. Hein, la taille des noyaux, c'est plutôt un Fermi, c'est-à-dire 10-15 mètres par rapport à l'atome qui est un angstrom, c'est-à-dire 10 puissance 5 fois plus gros. Donc quand on est tout près dans le noyau, on a cette force. Donc on voit que la stabilité demande un grand nombre de neutrons. Et donc on voit que c'est assez stable. Ici, la stabilité, c'est en noir, la ligne noire. Alors ici, on a trop de neutrons. Donc ici, on va avoir une désintégration bêta, c'est-à-dire qu'on va émettre des électrons pour redevenir protons. Ici, c'est le contraire. Soit on acquiert un électron, soit on libère un positron. Et puis, on voit qu'ici, il y a très peu de stabilité. Donc, la limite de stabilité sera ici, à peu près au plomb, au bismuth. Ici, on aura des éléments, mais qui auront une durée de vie qui sera plus petite que l'âge de l'univers, et donc des éléments instables. Alors, on va essayer de passer en revue un petit peu comment on forme tous ces éléments. Donc, les premiers, comme on l'a dit, sont ceux qui sont formés dans les quelques premières minutes après le Big Bang, où on a formation de deutérium d'abord à partir de neutrons et protons, deutérium, tritium, l'hélium-3, l'hélium-4 et peut-être un petit peu de béryllium et de lithium qui ensuite vont peut-être dans les étoiles se détruire, on va le voir. Donc, c'est lorsqu'on a une température très très forte, même plus forte qu'il y a au centre des étoiles, donc quelque chose de très rapide, et on va former donc toutes ces... Alors, il faut savoir que tout l'hélium que l'on mesure sur la surface des étoiles comme le Soleil vient du Big Bang. Et on forme bien de l'hélium dans les étoiles, mais il ne se libère pas beaucoup. Dans les étoiles comme le Soleil, qui vont devenir naines blanches, tout l'hélium va se retrouver dans le cœur, mais pas dans l'enveloppe. Donc le Soleil va libérer son enveloppe, qui va dans les nébuleuses planétaires, mais ça va être surtout de l'hydrogène, pas beaucoup d'hélium. Et puis les grosses les étoiles massives, elles vont brûler leur hélium, former le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Donc elles vont libérer aussi très peu d'hélium. Donc finalement, l'hélium que l'on voit autour de nous, c'est surtout dans le Soleil, et c'est surtout l'hélium du Big Bang, qui est 10% en nombre et 25% en masse. Alors, les résultats de cette nucléosynthèse primordiale sont, avec un grand succès, prédits par la théorie et correspondent aux observations. Vous avez ici l'abondance des éléments prédites par le modèle, qui sont les courbes, que ce soit l'hélium, le deutérium, l'hélium-3, le lithium, et puis en fonction de l'abondance des nucléons, alors baryons, disons, la matière ordinaire, par rapport aux photons. Alors ça, c'est un nombre qui est très petit, de l'ordre de 10⁻⁹. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on a à peu près symétrie entre matière et antimatière, et matière et antimatière s'annihilent, et le reste, que l'excès de matière qu'on a sur l'antimatière, qui est très petit, 10⁻⁹, et tout le reste, c'est des photons. On peut le mesurer, ça. On a les photons du Big Bang, on en a aujourd'hui, le fond cosmique, et c'est 400 photons par centimètre cube environ, et on a aussi la densité de matière, de baryon, donc on sait la calculer, et ça, c'est une donnée d'observation, c'est la verticale rouge. Donc vous voyez que ce qui est mesuré et prédit correspond exactement. Alors il y a eu quand même des problèmes à un certain moment. Le lithium que l'on observait dans les étoiles les plus anciennes, donc les moins métalliques, puisque au départ les étoiles n'ont pas beaucoup de métaux comme CNO, puisqu'il n'y a pas eu, c'est les premières étoiles, il n'y a eu que la nucléosynthèse du Big Bang. Donc quand on regarde les étoiles qui ont très très peu de métaux, on s'attendait à avoir une abondance de lithium qui soit représentative de la formation dans le Big Bang. Et en fait, les astronomes SPIT, un couple d'astronomes de l'Observatoire de Paris, avaient observé, en fonction de ce paramètre ETA, 10⁻⁹ ici, que l'abondance de lithium, quelles que soient les étoiles, quelle que soit leur température, la métallicité, etc., était constante. On appelle ça un plateau, le plateau des SPIT. Et ça, c'est un gros problème, puisque le modèle, comme vous voyez ici, prédit ça, le modèle de scénario de matière noire et matière ordinaire ici. Et puis la courbe rouge, c'est ce pic-là. Et en fait, il semblerait que le lithium observé dans les étoiles soit plus faible que ce que l'on prédit. En fait, c'est pas aussi simple. Dans ces étoiles, il y avait de la convection qui détruisait le lithium. Donc on n'avait pas un reflet vraiment du lithium primordial. Donc le problème est résolu. Alors les éléments suivants, donc on avait dit qu'ils se formaient par collision avec les rayons cosmiques. Alors les rayons cosmiques, il y en a du Soleil. Alors par exemple, on sait que les rayons cosmiques du Soleil détruisent aussi l'azote, agissent sur l'azote. C'est par exemple utilisé pour dater les éléments, puisque le carbone 14 est produit comme cela par les rayons cosmiques. Et lorsque un organisme est vivant, il respire le CO2 fait à partir de ce carbone 14, et il y a une durée de vie de 5730 ans. Donc lorsque la plante ou l'organisme ou l'animal ne vit plus, ne respire plus le CO2 de l'atmosphère qui est sans arrêt sous l'action des rayons cosmiques, à ce moment-là, son abondance de C14 va se désintégrer en C12, et on pourra mesurer ce rapport pour avoir l'âge de l'organisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile, mais on voit que c'est aussi utile pour expliquer les éléments comme le beryllium, le bore, etc., qui sont formés par ces rayons cosmiques. Alors, les rayons cosmiques, il y en a dans le Soleil, mais il y en a beaucoup dans d'autres étoiles, il y en a aussi dans les supernovae, bien sûr, dans la galaxie, ils sont partout, ils sont accélérés par les supernovae, par les champs magnétiques, et on n'a aucun problème à avoir assez de rayons cosmiques pour former ces éléments. Ensuite, on a vu déjà, donc ça c'est un petit rappel, dès la première réaction qui se passe dans les étoiles comme le Soleil, donc qui brûle l'hydrogène en hélium par la réaction PP, la plus simple. Donc vous prenez des protons, et puis vous en formez d'abord des deutériums, puis ensuite avec d'autres protons, etc., vous formez l'hélium 3, puis jusqu'à l'hélium. Alors vous voyez que la durée de vie, l'efficacité de la première réaction est très faible à cause de cet effet tunnel, justement. Vous avez 1 milliard d'années. Puis ensuite, ça va quand même beaucoup plus vite, 1 milliard d'années pour celle-ci. Mais c'est ce qui fait que les étoiles restent sur la séquence principale pendant des milliards d'années. Le Soleil va y rester 10 milliards d'années. Plus vous êtes massif, moins vous allez y rester. Mais ça nous permet de bénéficier d'un grand temps de développement, par exemple pour la vie sur Terre, sans doute ça joue énormément. Vous n'avez pas que cette réaction PP, vous en avez plusieurs. Une fois que vous avez des éléments déjà formés, ça va pouvoir servir de catalyseur. Vous allez avoir une PP1, proton-proton 1, proton-proton 2 et puis 3, qui vont être catalysés par la formation déjà de ces éléments, et qui permet d'aller un peu plus vite. Donc c'est un petit peu plus évolué, et le temps va être un tout petit peu plus court. Donc là, c'est une généralisation de la première PP. Alors il faut regarder aussi que comment nous restons sur la séquence principale. Vous avez ici, dans le diagramme HR que nous avons l'an dernier développé, ici la luminosité de l'étoile qui varie d'ordre de grandeur énorme ici, la température qui varie dans ce sens, qui va vers la gauche, et normalement si vous avez un rayon donné, un rayon fixe, vous avez L qui est proportionnel à T4, donc vous êtes sur une de ces courbes. Alors, ce sont des droites puisqu'on est en log-log, donc on a ces courbes là, et vous voyez que ces courbes correspondent à un rayon donné. On remarque que sur la séquence principale, surtout pour les étoiles qui restent très longtemps comme le Soleil, le rayon varie très peu, en fonction de la masse, entre 1 et 10. Et puis, ce n'est que lorsqu'on sortira de cette séquence principale qu'on va devenir dans les géantes. Vous voyez que les géantes peuvent avoir 100 à 1000 fois le rayon du Soleil. Ou alors, lorsqu'on sortira avec le Soleil pour éclater en nébuleuse planétaire, on va redevenir naine blanche. Et vous voyez que les naines blanches, on a un rayon 100 fois inférieur au rayon du Soleil. Donc tout cela nous donne un petit peu la luminosité en fonction de la masse, et on voit que plus une étoile est massive, plus elle va consommer son combustible rapidement, et que sa durée de vie, comme on l'avait vu, ces étoiles O et B ici ont une durée de vie qui peut être 10 millions d'années, alors que le Soleil c'est plutôt 10 milliards d'années. Donc la température au centre de ces étoiles est de plus en plus forte en fonction de la masse. C'est pour ça que les réactions nucléaires sont beaucoup plus efficaces. Et on avait parlé de ce diagramme où la relation PP, le Soleil est à peu près là, au centre, la température au centre du Soleil. La relation PP est possible seulement pour les petites, enfin, uniquement la relation qui est possible pour les petites masses. Et puis ensuite, pour les grandes masses, vous avez le cycle CNO et puis ensuite le triple alpha qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Ici, c'est l'efficacité en fonction de la température de la réaction nucléaire correspondante. Alors, ce cycle CNO, qui est aussi un peu valable pour le Soleil, voyez que c'est un cycle qui va former l'hélium à partir de l'hydrogène, mais en se servant de carbone, azote, oxygène comme catalyseur. Le CNO, il doit exister avant, alors vous allez dire pas pour les premières étoiles puisqu'on n'en aura pas formé du tout, mais dès que vous avez déjà un petit enrichissement, à ce moment-là, vous avez le carbone qui, vous voyez arriver un proton ici, un proton ici, un proton là et là, donc ça vous fait 4, et puis entre-temps, vous avez aussi libéré des positrons, donc des charges, donc vous allez avoir 2 neutrons et 2 protons qui vont former l'hélium, alors que vous êtes passé successivement en azote et en oxygène, mais vous retombez sur vos pieds en repartant du carbone dans ce cycle. Donc ce cycle est là vraiment pour catalyseur, et vous avez plus d'efficacité que pour la relation PP, comme on le voit ici. Alors il n'y en a pas qu'un de ces cycles CNO, il y en a plusieurs. Vous voyez un petit peu le temps de réactions ici qui peuvent être rapides. Ici, c'est le premier cycle, mais vous en avez d'autres qui tous reforment l'hélium après catalyse. Donc ici, le temps caractéristique est plutôt de 10 millions d'années et non pas 1 milliard comme on l'avait vu. Et puis, on a vu dans le petit diagramme, la troisième façon, ensuite maintenant, c'est de brûler l'hélium, qui commence à 10 puissance 8 K. Alors ça, c'est lorsque les étoiles vont sortir, elles ont terminé leur combustion d'hydrogène dans le centre, donc il y a un cœur d'hélium, et ensuite elles vont sortir de la séquence principale, croître, l'enveloppe va croître, va devenir un petit peu géante, alors que le cœur va se concentrer, donc ça va être plus chaud, et on va pouvoir déclencher cette réaction de triple hélium. Donc vous avez un alpha ici, un troisième qui va arriver, et donc vous allez progressivement alors former un état intermédiaire béryllium, mais qui a une durée de vie très très courte, et puis vous allez former le carbone, et puis ensuite avec un autre hélium, l'oxygène, ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu au-delà de la séquence principale, vous avez un tournant qui tout d'un coup est le flash de l'hélium, où vous commencez à brûler l'hélium, qui va rendre un petit peu le parcours de l'étoile un petit peu instable. Alors, pour toutes ces fonctions ici, la fonction de la fabrication de CNO et des éléments qui suivent, il y a Will Fowler, dont il y a eu le prix Nobel en 1983, qui a énormément travaillé sur ces sujets. C'est lui qui a le plus contribué à non seulement à calculer les réactions nucléaires, mais les observer aussi, à les observer dans des réactions nucléaires pour vérifier, et aussi dans les étoiles. Donc il a été un des premiers qui a montré que la théorie et les observations correspondent remarquablement. Ici, vous avez ce qui est observé en noir et calculé en rouge, et il y a des endroits où vous ne voyez pas la différence tellement les courbes se superposent. Donc ça, c'est remarquable en astrophysique qu'une théorie corresponde exactement aux observations. Alors pourquoi vous avez ce diagramme en dents de scie ? C'est toujours la stabilité. Lorsque vous avez un nombre pair, ici, carbone, c'est un nombre pair 6 de protons et aussi de neutrons, oxygène aussi. Dès que vous avez un nombre impair, vous êtes beaucoup moins stable. Donc, vous voyez, pair, impair, ça c'est remarquable. Vous avez une stabilité avec des nombres pairs. C'est un petit peu la même chose que pour les nombres magiques. Mais ici, vous avez le nombre magique 28, tout d'un coup. Et puis, vous avez des pics, mais à chaque fois, on voit cette succession de pairs impairs ici. Alors, Will Fowler avait justement été jusqu'au fer en montrant ce modèle de l'oignon, en fait, des couches d'oignon, où lorsque vous avez déjà, par exemple, pour une petite masse, formé un cœur d'hélium, vous allez brûler l'hydrogène dans une couche, dans une coquille, en quelque sorte, et puis, lorsque vous avez une masse plus grande, vous allez pouvoir brûler l'hélium en carbone, et ainsi de suite, et finalement, vous avez plusieurs couches où vous brûlez l'hélium dans la couche supérieure, l'hydrogène, pardon, puis ensuite l'hélium, puis ensuite le carbone, l'oxygène, jusqu'au fer. Donc c'est ce modèle d'étoile en oignon qui est remarquable. Alors, Woosley et Weaver, plus récemment, ont montré que dans ces étoiles massives, on avait un cœur qui devenait pratiquement un cœur d'étoile à neutrons, puisque vous avez une gravité aussi forte que les protons et les électrons se rapprochent pour former que des neutrons. Donc normalement, le neutron, lorsqu'il est libre, dans l'univers, il va se désintégrer tout de suite avec une durée de vie d'un quart d'heure, mais lorsque vous êtes dans un état compressé, la gravité l'empêche de se désintégrer et vous avez un cœur de neutrons. Alors vous voyez ici l'efficacité epsilon des réactions nucléaires qui se forment ici. Et puis, comme on l'avait vu aussi, lorsque le gradient de température est supérieur au gradient adiabatique, vous avez intérêt à être convectif pour pouvoir échanger l'énergie beaucoup plus facilement, alors que la radiation n'y arriverait pas. Donc ici, vous êtes convectif, et dans l'enveloppe qui ne forme plus du tout de réaction nucléaire, vous avez aussi l'énergie est libérée de façon convective. Donc vous avez ici une étoile de 15 masses solaires, par exemple, avec une luminosité de 10 puissance 5 luminosité solaire. Alors ça, c'est au niveau réaction nucléaire, et lorsque vous regardez les abondances, vous voyez qu'en effet, vous allez avoir ici du fer, ici les éléments silicium, etc., et puis oxygène, carbone. Ici, vous avez encore l'hydrogène et l'hélium, et un petit peu de CNO, carbone, azote et oxygène. Alors, on peut simuler cela, parce que l'intérieur, on le connaît mal, on connaît l'enveloppe, évidemment, on mesure les abondances de l'enveloppe, on connaît mal un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, on peut contraindre, on le verra avec le séminaire tout à l'heure de Benoît Mosser, avec l'hystérosismologie, on va pouvoir peut-être rentrer un petit peu dans l'intérieur, mais on peut aussi essayer de simuler, et aujourd'hui, avec les ordinateurs, on arrive à cela. Par exemple, une des simulations que vous voyez ici, qui doit être à trois dimensions. Au début, on commençait à une dimension en disant que l'étoile est tout à fait sphérique, sa symétrie sphérique. En fait, pas du tout. Ici, vous avez une simulation du cœur de l'étoile. Et vous avez un rayon en mégamètres. En fait, le rayon du Soleil, c'est 700 mégamètres. Donc, ça vous donne une petite idée. Le Soleil est beaucoup plus grand. C'est le cœur seulement. Et vous avez la vitesse tangentielle. Ici, la vitesse radiale. Ça veut dire qu'il y a des mouvements en bleu qui rentre dans l'étoile, en rouge qui en sort, et c'est pas du tout symétrique. On va même voir une petite animation de la turbulence à l'intérieur du cœur. Ici, c'est la dispersion de vitesse en quelque sorte. Vous voyez que ça n'a rien de symétrique, ça n'a rien de symétrie sphérique. Donc on comprend pourquoi on ne pouvait pas à une dimension se rendre compte de ce qui pouvait se passer. Ici, c'est assez joli la turbulence, et on voit un petit peu l'extérieur de ce rayon de mégamètres ici. Donc bon, ça se reproduit, hein, c'est un petit peu. Donc vous avez des mouvements de convection et de turbulence. Donc on va s'intéresser maintenant. On a vu la fusion, à la capture des neutrons. On a ici en fonction des protons. Alors on va changer protons maintenant ou neutrons, enfin selon le cas. Hein. Là, c'est pour l'instant ce qu'on avait déjà vu, les protons et les neutrons. Et on sait que la stabilité va favoriser le grand nombre de neutrons par rapport aux protons. L'égalité serait le vert. Et que lorsqu'on va avoir énormément de neutrons dans une nucléosynthèse explosive, les supernovées ou les fusions d'étoiles à neutrons, on va se déplacer pour avoir des éléments qui ne seront pas stables, mais qui auront ensuite une certaine durée de vie pour revenir sur la trace de stabilité. Donc, comment va-t-on faire? En fait, on a échangé maintenant déjà, on a le neutron ici. C'est plus facile parce que pour un Z donné, vous avez un élément donné, par exemple l'argent, le cadmium, l'indium, etc. Et puis, lorsque vous ajoutez des neutrons, vous allez aller très loin de la stabilité, mais peu à peu dans cette direction horizontale. Lorsque vous aurez un processus lent, vous aurez le temps pour le neutron de se désintégrer en émettant un électron, et donc vous allez sauter une ligne en Z pour avoir un plus de protons, Z plus 1, et puis on peut avoir le contraire aussi, et puis on peut aller d'un côté à l'autre et puis reprendre un flot de neutrons. Donc, une preuve de la capture des neutrons, c'est qu'on observe des éléments qui ne sont pas stables. Alors, par exemple, on a l'élément technétium, qui est l'élément instable le plus léger, hein, qui est un élément 43 seulement, qui est observé dans les étoiles Mira, qui, lorsque les AGB ont certaines fluctuations, on les observe en fluctuations, qui sont formées, et en fait, la durée de vie est 1 million d'années. En sur Terre, il n'y en a pas du tout. On peut le former dans des accélérateurs, mais c'est artificiel. Ça n'existe pas, mais ça existe dans certaines étoiles. Donc on voit que la capture de neutrons se fait. On peut former, par capture de neutrons, ces éléments qui sont instables. Ici, on a à nouveau la façon dont on est sur à peu près au plomb, ici, c'est-à-dire à la limite de stabilité. On peut descendre par désintégration d'un positon, dans ce sens, ou remonter ici, ou même avoir une désintégration alpha. Alors un alpha, c'est 2 protons et 2 neutrons, donc ça vous fait descendre dans l'autre bisectrice de 2 unités, Z-2 et N-2. Donc tout ceci est représenté ici en vert, en rouge et en bleu. Donc vous voyez qu'on a à la fois des captures de neutrons, mais ensuite tout se désintègre pour revenir peut-être avec plus ou moins de durée de vie, sur la ligne de stabilité. Donc on peut calculer un petit peu à quel rythme se fait le processus lent et le processus rapide. On peut calculer, évidemment, le sigma est en 1 sur V, donc si c'est lent, ça veut dire que c'est thermique, 3000 km par seconde environ. Et on n'a pas beaucoup de neutrons dans le processus lent, ce sont les fusions routinières qu'il y a dans une étoile, donc on peut estimer la colonne densité à 10 puissance 5. Ça nous donne un temps de 10 puissance 4 pour avoir une capture de neutrons, alors que dans le processus rapide, alors vous avez énormément plus de neutrons dans cet événement explosif, 10 puissance 22, et on estime à 10-6 secondes la capture d'un neutron dans ce processus rapide. Alors vous voyez que c'est très rapide, c'est bien plus rapide que le temps pour un neutron de se désintégrer en proton. Donc c'est pour ça qu'on peut aller très très loin en neutron sans que le neutron ait le temps de se désintégrer. Et c'est ça qu'on appelle rapide. Alors la capture de protons et neutrons, donc on peut avoir plusieurs processus en fait, et je n'ai pas parlé beaucoup de ces éléments P qui étaient moins abondants mais quand même qui existent, qui ont un excès de protons par rapport à un excès de neutrons, et il se peut que dans les réactions nucléaires, il y en ait fait des protons qui sont dégagés et qui interagissent pour, par exemple, former des éléments un peu instables, comme le cobalt ici, qui a une durée de vie de 17 ans, je crois. Et donc le fer change le nombre atomique et devient cobalt, avec un P. Par contre, on peut aussi l'avoir avec des neutrons lents, donc un à la fois, et qui vont devenir, par exemple, fer ici, puisqu'on n'a pas changé le nombre atomique. Et puis peut-être, il va se désintégrer en libérant un électron, puisque c'est un processus lent, et on va revenir sur le cobalt. Donc finalement, deux façons de former la même chose, mais de façon lente. Le rôle de ce processus lent, c'est justement de revenir sans arrêt sur la ligne de stabilité, puisqu'on va avoir un neutron, puis très vite, il va se désintégrer pour revenir sur cette ligne de stabilité et on va former ce qui est le deuxième pic de ces nombres magiques. Là, S, ça veut dire le processus lent. Et on voit que tous les processus S vont être sur cette ligne de stabilité, alors que les processus rapides seront plutôt riches en neutrons ici. Ici, c'est les neutrons, ici, c'est les protons. Et donc, la capture rapide... La grande différence, c'est qu'il y en a plusieurs à la fois. Il y a énormément de neutrons qui sont libérés dans ces événements explosifs. Donc vous allez pouvoir en attraper 3, 4, 5, bien avant que la désintégration d'un électron ait eu lieu. Donc vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite à former ces éléments riches en neutrons. Pour ces étoiles très très massives, on a... Sans être explosif PES, on peut aller jusqu'au bismuth. Par contre, il faudra les supernovae et les fusions d'étoiles à neutrons pour avoir ces processus rapides. Donc, le processus rapide, son rôle est celui-ci. Vous voyez qu'on va former des éléments bien loin de la ligne de stabilité. Et puis, ce qui arrive, c'est que la capture est beaucoup plus lente pour les nombres magiques. Alors, il y a toujours ces pics, ces nombres magiques. Lorsque vous êtes à Z égale 50 et puis N égale 82, vous êtes à ce niveau du barium là, et du xénon ici. Et vous avez une cassure. Donc on ne va pas jusque-là. Hein. On a un excès de neutrons, mais on revient à chaque bump, à chaque pic de stabilité. On revient près de la ligne de stabilité. Donc pour cette norme magique-là, et pour le dernier norme magique ici, Z égale 82 et N égale 126, vous êtes au plomb, et donc vous avez cette deuxième loi. Donc ce processus rapide se fait finalement en trois fois. À chaque fois que vous avez ces normes magiques, vous revenez sur la zone de stabilité. Donc si on fait un résumé un petit peu de ce qu'on voit ici, nombre de neutrons et nombre de protons, vous voyez en jaune le processus P où on acquiert des protons. On aura un excès de protons ici, de ces éléments en jaune qui ne sont pas très stables. On aura en vert tous les éléments stables formés par la relation S qui est très lente et qui permet d'avoir la stabilité. Et puis tous les rouges, ce seront les processus R qui seront un excès de neutrons et qui reviendront peu à peu sur la ligne de stabilité. Alors voici un petit peu ce qu'on a mesuré comme produit en laboratoire, en gris, hein, ce qui est fait en S et la ligne verte, vraiment stable. Puis en gris, ce qui a été mesuré, ici, c'est complètement instable. On peut en mesurer, mais il y a une durée de vie donnée. Et ici, vous voyez le processus R qui marche en trois marches, en quelque sorte. Et les paliers sont les nombres magiques qui représentent la stabilité plus grande des noyaux. Et puis les processus lents de l'autre côté. Alors, évidemment, là, il y a des compétitions entre processus. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des éléments stables, et puis il y a des îlots de stabilité. En bleu, ce sont les éléments instables. Ce que vous voyez ici écrit, ce sont les durées de vie, la durée de vie de l'instabilité. Lorsque les éléments noirs ici sont stables, ce qui est écrit, c'est les pourcentages de cet isotope-là. Par exemple, ici, vous avez 100% de cet isotope dans celui-là, mais en strontium ici, vous en avez 82% ici, 7%, etc. Donc ça permet de savoir où se trouvent les plus stables. Et vous voyez que pour le krypton ici, on saute avec un flot rapide de neutrons. On peut très bien sauter dans cet îlot de stabilité alors qu'on avait un élément instable ici. Mais comme si c'est un processus rapide, on sera plus rapide de ce côté que par la désintégration bêta de cet élément instable. Donc ça va nous permettre d'accéder à tous ces éléments. De même, ici, ça permet d'expliquer tous ces pics en détail. Par exemple, ici, c'est les derniers éléments de grande stabilité. On a les éléments instables par capture d'électrons. Ici, on a rejet d'électrons, désintégration par électrons. Ici, on a les blancs qui sont stables. Et puis, les éléments qui se désintègrent par émission d'une particule alpha, c'est une particule d'hélium qui se retrouve ici, et donc on arrive à expliquer par exemple que le plomb est obtenu par une relation lente d'accrétion de neutrons, alors qu'il y en a par exemple ici, vous avez le platine et l'or qui demandent des processus très rapides. On appelle cette stabilité et ces deux zones à côté, ce qu'on appelle la drip line, c'est-à-dire que tous les éléments ici vont se désintégrer en émettant un proton, ici en émettant un positron, ici en émettant un électron pour se revenir là-dessus, et ici un neutron. Donc tout cela existe dans la nature, en une durée de vie, mais tend à plus ou moins long terme à revenir sur cette stabilité. Donc finalement, on a une petite synthèse de ce que l'on connaît ici. Ici, on a tout ce qui a été formé dans le Big Bang, dans la fusion des étoiles. Ici, quelque chose qu'on appelle un équilibre statistique nucléaire. Ce n'est pas un équilibre complètement global ici, mais on sait qu'il peut y avoir des compétitions. En fait, ce qui dépend de l'abondance de ces éléments-là dépend non seulement de la température et de la densité dans les étoiles, mais aussi de l'énergie de liaison de ces éléments. Et ça favorise évidemment le fer qui est très très stable ici. Et tout ce qui est bleu et rouge, donc ce sont les neutrons, les flots de neutrons, qu'ils soient rapides ou lents, et qui favorisent tous ces éléments qui sont plus stables que les autres. Donc plomb ici, mais platine et or ici, tellure, xénon, etc. Alors, on arrive à cette diagramme de Mendeleïev, où on sait maintenant quelles sont les étoiles qui ont fait ces éléments. En gros, on retrouve le Big Bang pour les éléments très légers, en rose, les rayons cosmiques, et puis on a des étoiles comme le Soleil, qui en mourant vont devenir naines blanches, mais qui vont rejeter quelques éléments, et tout c'est en vert, ici, ce qui n'est pas négligeable tout de même. Et puis les deux explosions qui sont l'explosion des supernovae de type 2, très massives, comme le crabe, qui va donner tous les éléments en jaune. Alors, c'est des éléments qu'on appelle primaires. Pourquoi ? Parce que ces étoiles massives ne vivent que 10 millions d'années, ou pas beaucoup plus, et donc ils se forment très tôt. Alors que si vous attendez l'explosion d'une naine blanche, qui reçoit par son compagnon de la matière, donc il y a une explosion qui se fait à ce moment-là, mais pour être une naine blanche, il faut être passé par le stade soleil, c'est-à-dire quelques milliards d'années, entre 1 et 10 milliards d'années, donc il faut attendre pour avoir ces éléments en gris, par exemple, surtout le fer, il faut attendre des milliards d'années, donc on appelle ces éléments secondaires, C'est-à-dire que la première génération d'étoiles vont former surtout ces éléments en jaune, et puis les éléments en gris seront secondaires. Donc c'est le rapport de ces éléments. Alors, ces éléments, on les appelle alpha, tous ces éléments, silicium, aluminium, etc. Et c'est le rapport entre des abondances entre ces deux-là qui va nous donner l'âge. Et par exemple, s'il s'est formé beaucoup d'étoiles au début de l'univers, on va avoir ces éléments qui seront privilégiés. On va le voir pour voir ce qu'on peut dire sur l'archéologie de la galaxie. Et puis finalement, ce qu'on a appris et vérifié récemment dans les fusions d'étoiles à neutrons, c'est tous ces éléments plus lourds qui sont formés par un bombardement de neutrons. Donc en fusionnant des étoiles à neutrons, dans quelques secondes, vous allez former tout ça. Tous ces lanthanides là qui sont très difficiles à former, donc tout ce qui est platine, or, etc. Tout ça s'est formé dans ces étoiles. Alors justement, on a appris beaucoup avec ce prototype, on en a vu d'autres, mais c'était en 2017 qui était le premier qui nous a donné beaucoup d'éléments. Alors ce terme-là, c'est un numéro de téléphone si vous voulez, mais ça veut dire l'année à laquelle on l'a observé, 2017. GV, c'est Gravitational Wave, hein, c'est l'onde gravitationnelle qu'on a détectée en 2017, au mois d'août et le 17 août. Donc le 17 août, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu cet élément qui dure quelques secondes. Hein, vous avez vu, zéro, c'est l'élément de la fusion des étoiles à neutrons. Et vous voyez qu'ici, en 3 secondes, c'est fini. Donc ça, c'est très très rapide. Ici, vous avez la fréquence. On sait que la fréquence, au début, la fréquence d'émission de ces ondes gravitationnelles, c'est la fréquence de rotation des deux étoiles à neutrons l'une autour de l'autre. Donc évidemment, elles vont augmenter leur fréquence de rotation lorsqu'elles ont fusionné. C'est ce que vous voyez ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a observé? Comme ce ne sont pas des trous noirs, avant on avait observé beaucoup de trous noirs, et il n'y avait que des ondes gravitationnelles et pas de matière et de rayonnement. Pourquoi? Parce que le trou noir avait tout avalé. Mais là, l'avantage des étoiles à neutrons, c'est que il n'y a pas de trou noir pour avaler le rayonnement, et vous avez de la matière qui sort. Vous avez aussi des rayons gamma, donc des rayons électromagnétiques très énergiques, qui ont été émis une seconde après. Donc ça, c'est vraiment caractéristique, il y a une coïncidence, et ça venait d'une galaxie qui est assez proche, cette galaxie-là, qui a été observée par le Very Large Telescope de l'ESO, et l'instrument MUSE, qui fait une spectroscopie, et vous voyez en rose, c'est le H-alpha, des formations d'étoiles, et cet événement, c'est celui-ci. Il y a une barre dans cette galaxie, elle est à 38,9 mégaparsecs, ce qui veut dire que ce rayonnement nous a été transmis à peu près à 130 millions d'années, a mis 130 millions d'années à nous parvenir, et comme les deux événements sont parvenus pratiquement ensemble, à une seconde près, ça nous a donné la première estimation de la vitesse des ondes gravitationnelles par rapport à la vitesse de la lumière, et on peut montrer qu'elles sont égales à 10-15 près, puisque une seconde sur 130 millions d'années, ça nous fait cette précision-là. Donc ici, on a eu pendant quelques secondes ce pic de rayon gamma, mais vous avez ensuite un rayonnement rémanent qui est ici, hein, cet objet-là, qui va durer, selon la longueur d'onde, plusieurs secondes, minutes, jours, et même pour la radioastronomie, c'est le rayonnement le plus faible, ça a duré plusieurs mois. Donc vous avez un événement qui va durer, on va pouvoir l'étudier de près et voir un petit peu les kilonovas qui étaient prévus avant même que cet événement soit observé. Certains, comme Metzger et collaborateurs, avaient déjà prédit qu'on observerait une kilonova. Alors pourquoi kilonova? C'est que ce sont des étoiles à neutrons qui, chaque étoile à neutrons a 1,5 masse solaire, donc c'est de l'ordre de la masse solaire. On sait que la luminosité d'Eddington nous fait une nova, et là c'est 1000 fois la luminosité d'Eddington qui correspond à cette masse solaire, et donc on appelle ça kilonova, parce que c'est 1000 fois plus. Donc c'est cette énergie qui est rayonnée. Alors la luminosité d'Eddington, je vous le rappelle, c'est la maximum que l'on peut avoir lorsque la pression de radiation va empêcher la matière de retomber. Mais ici, ce n'est pas... c'est pendant quelques secondes, on a eu beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas isotrope et on peut temporairement violer le principe d'Eddington. Donc ici, vous avez une petite image de ce qui se passe hein, de façon de face. Vous avez un choc, vous avez les deux étoiles à neutrons qui vont fusionner, spiraler le long de leur trajectoire. Et lorsque vous regardez de façon par la tranche, le disque d'accrétion qui se trouve autour de l'objet compact, qui est le résultat de la fusion. Alors ce résultat de la fusion, au départ, c'était encore une étoile à neutrons très massive, parce qu'elle était en rotation très importante, ce qui l'empêchait de tomber tout de suite en trou noir, et puis peu à peu, elle est devenue un trou noir. Donc on a finalement un trou noir avec un disque d'accrétion, et puis la matière qui repart perpendiculairement au disque d'accrétion, ce qui est symbolisé par ce dessin. Donc on a aussi, pendant quelques secondes, on a émis beaucoup de neutrons qui ont fabriqué tous ces éléments, et beaucoup d'éléments étaient radioactifs, hein, puisqu'on a tellement de neutrons qu'on est en dehors de la ligne de stabilité. Et donc on fait un petit peu comme une supernovae 1A qui forme du nickel 56 qui a une certaine durée de quelques jours, quelques mois, selon l'élément de radioactif qui est là. Et donc c'est pour ça que l'événement est rémanent, il y a énormément de luminosité, alors que le neutrino et le neutron sont partis déjà dans les premières secondes. Alors voilà ce qui était prévu et ce qui est arrivé, qu'on a observé. On a observé dans cette direction, c'est-à-dire le jet de rayon gamma qui a été émis n'était pas de face, mais enfin on l'a observé de côté. Ici, vous avez prévu, selon les éléments légers qui étaient formés, une lumière plutôt dans les bleus, plutôt ici rouge pour les éléments les plus lourds, les lanthaniens qui ont été formés. Ici, vous voyez le trou noir et le disque d'accrétion. Et tout ça a été observé avec très grande précision. On a pu montrer que les neutrinos qui étaient dégagés et qui rencontraient les neutrons créaient des charges. Alors évidemment, la charge proton plus électron est neutre en moyenne, mais on peut savoir quelle est la quantité de charge. Au départ, il n'y a que des neutrons. Et ensuite, vous avez des protons et des électrons, donc un certain nombre de charges qui croient. Voici ce qu'on a observé. Et donc, on sait maintenant que ces événements qui sont relativement rares, mais quand même très très importants, nous permettent d'expliquer toute l'abondance d'éléments très lourds qui ne se formeraient pas autrement. Alors, qu'est-ce qui contribue le plus à l'enrichissement du milieu interstellaire? Eh bien, il y a énormément de petites masses, mais elles ne donnent pas grand-chose finalement, bien qu'elles soient les plus nombreuses, parce que, comme on le disait au début, des étoiles comme le Soleil gardent un cœur d'hélium et ne vont pas le libérer, et libèrent surtout l'hydrogène et un tout petit peu d'éléments lourds, mais pas beaucoup. Donc ce qui va enrichir beaucoup le milieu interstellaire, ce sont les supernovae et puis les étoiles à neutrons qui fusionnent. Ici vous en avez des naines blanches qui, comme vous le savez, lorsqu'elles sont en couple, vous avez une étoile ordinaire qui perd un peu de la masse, elle obtient son lobe de roche ici, va avoir un disque d'accrétion autour de l'étoile naine blanche, et lorsque une grosse partie de l'enveloppe va tomber sur la naine blanche, il va y avoir une réaction nucléaire importante qui va détruire le système, et qui va être cette supernovae de type 1A, qui est plus brillante en fait même qu'une supernovae de type 2, qui est l'explosion d'une étoile massive en fin de vie. Donc c'est ce genre de supernovae qui vont vraiment enrichir le milieu interstellaire. Vous avez une idée d'une des dernières supernovae qu'on a vues dans notre galaxie par Tycho Brahe en 1572, et ça c'est une supernovae de type 1A justement qui a beaucoup enrichi le milieu. Et puis vous avez ensuite des étoiles beaucoup plus massives comme le Crabbe qui va enrichir aussi, et puis plus tard on va le développer, les supernovae à instabilité de paires, donc des paires électrons-positrons qui s'annihilent et qui vont faire exploser toute l'étoile. Alors ces supernovae, on sait les fabriquer en ordinateur maintenant. Au début, on n'y arrivait pas, ça ne s'explosait pas en fait, parce qu'on était peut-être à 1D, ici maintenant à 3D, et je vous donne juste un petit aperçu de ces simulations. Vous voyez que c'est assez complexe, c'est pas du tout axisymétrique, on ne pouvait pas suspecter que tout ça arrivait lorsqu'on faisait des simulations 1D. Ici, vous avez aussi une simulation d'une supernovae 1A où il y a l'abondance ici de cobalt, l'élément radioactif. Vous voyez que c'est absolument pas régulier, axisymétrique ou même symétrique à symétrie sphérique. Alors, l'apport des différentes étoiles, on peut la calculer. On a vu que les petites étoiles étaient bien plus nombreuses. Ici, c'est la masse de l'étoile, mais qu'elle ne donnait pas grand-chose. Et là, on va pondérer avec le rapport de ce que donne chaque étoile avec l'IMF, qui est la fonction de masse initiale des étoiles lorsqu'elles naissent. Combien d'étoiles de grande masse, combien d'étoiles de petite masse. Alors évidemment, normalement, ce sont les grandes étoiles qui contribuent le plus, mais comme elles sont peu nombreuses, finalement, ce qui contribue le plus, c'est au milieu. C'est en 20 et 30, parce qu'il faut faire une convolution entre le nombre et ce qu'elle contribue. Alors évidemment, ça dépend beaucoup de la rotation de l'étoile. Avec une étoile en rotation, elle va avoir un vent plus fort, elle va émettre beaucoup plus. Donc vous voyez que la contribution à carbone, oxygène et tous ces éléments-là sont beaucoup plus forts lorsque l'étoile est en rotation. Donc on va essayer d'appliquer dans les quelques minutes qui me restent à l'archéologie galactique, savoir si ces marquages chimiques vont nous permettre de savoir comment se sont formés, par exemple, le disque mince. Alors, dans une galaxie, vous avez un disque mince où se trouve tout le gaz et où naissent les étoiles jeunes. Alors, ces étoiles jeunes, elles bénéficient de toutes les générations antérieures des étoiles anciennes qui ont enrichi le milieu. Donc, finalement, les étoiles jeunes, elles ont une métallicité plus grande. Par contre, elles forment des étoiles à un taux qui est inférieur à ce qu'il était autrefois, lorsqu'il y avait beaucoup de gaz dans les galaxies. On formait beaucoup d'étoiles et très rapidement. Alors, lorsqu'il y a vraiment un burst de formation d'étoiles, on forme beaucoup d'éléments primaires, alpha, le silicium, l'oxygène, etc., ce qui est primaire. Et puis, les étoiles de deuxième génération sont enrichies par ça, alors qu'elles n'ont pas de fer encore. Et donc, c'est ça qu'on mesure. C'est le rapport de ces éléments primaires et secondaires. Alors ici, vous avez des étoiles qui sont très peu métalliques, donc qui sont vieilles, et qui sont dans le disque épais. Et puis dans le disque mince, vous avez des étoiles très métalliques, donc qui se forment aujourd'hui avec tous les métaux qui ont été accumulés dans le gaz, et qui finalement ont très peu d'éléments primaires, ils ont plus de fer, d'éléments secondaires. Donc finalement, quand on regarde ce rapport, les modèles sont en noir, ça c'est pour le modèle du voisinage solaire, on voit qu'ici on a l'âge qui arrive et on arrive à former dans le disque jaune, le disque mince, les étoiles aujourd'hui. Ici c'est un petit peu la même chose, je passe un peu rapidement. Ici pour le bulbe c'est un petit peu différent, on a des éléments qui sont assez vieux, en fait, dans la Voie lactée, le bulbe est à l'âge des étoiles. On a un âge, la couleur des points, c'est l'âge. Donc ici, vous avez en bleu le plus jeune et en rouge le plus âgé. Et le noir, c'est toujours la courbe pour le voisinage solaire. Et pour le bulbe, on a ces deux courbes jaunes. Il y en a une qui est en pointillé, qui est sans la vitesse de rotation des étoiles, et l'autre... Vous voyez un peu l'incertitude qu'on a, on ne sait pas si les étoiles sont en rotation ou pas. Et donc, on essaie de mettre entre deux limites, sans rotation et avec rotation. Et donc, ça correspond bien aux étoiles du bulbe qui sont mesurées. Donc, là, on est assez content dans ces modèles. Ici, vous voyez aussi, en fonction de l'âge des étoiles, les jaunes sont très, les oranges sont très vieilles et elles ont un rapport alpha sur le fer, c'est-à-dire primaire sur secondaire, qui est très fort. Ça veut dire qu'il y a eu un starburst au début et qui a formé le disque épais. Et puis ensuite, le disque jeune, ici en bleu, il est beaucoup plus jeune, mais aussi il a beaucoup moins d'éléments alpha. Donc tout ça correspond bien et ça nous permet de mieux comprendre comment s'est formé le disque jeune et le bulbe et le disque épais. On fait aussi la même chose dans M33, qui est une galaxie voisine, qui est assez proche pour qu'on puisse détecter étoile par étoile. Ici, vous voyez une image optique obtenue avec le Hubble Space Telescope. Vous voyez deux bras spiraux. Ici, c'est en UV. Alors, en UV, on voit les climps de formation d'étoiles. C'est assez désordonné. Et ici, c'est la poussière qu'on voit en infrarouge et le gaz que l'on voit en 21 cm. Et lorsque vous regardez le diagramme couleur-magnitude, c'est-à-dire le diagramme HR des étoiles, vous pouvez détecter, par exemple, la séquence principale. Alors ça, c'est pas exactement la température et la luminosité, mais c'est une couleur-magnitude. Et vous pouvez avoir les étoiles un petit peu moins jeunes qui sont en train de brûler l'hélium, qui sont HEB, helium burning. De même, ici, en infrarouge, vous avez les AGB, qui sont les plus vieilles, et puis les étoiles des géantes rouges. Donc on a un certain âge, et puis on regarde un petit peu, vous voyez, en fonction de l'âge, on a la séquence principale, qui est la plus jeune, puis les étoiles hélium, et puis les AGB et les RGB qui sont plus vieille. Donc on arrive à reproduire qu'est-ce qui s'est formé. Alors là, dans ce travail récent de Smersin et al., on voit que les bras spiraux que l'on voyait dans la séquence principale, ici, et là, on les voit un petit peu différents. Et lorsqu'on fait la différence, on voit que les étoiles les plus vieilles sont dans une barre que l'on ne voyait pas très bien ici, mais on a mis en évidence un composant barre qui rassemble les vieilles étoiles et qui rassemble aussi le gaz qui est warpé ici, c'est-à-dire un petit peu déformé par l'interaction M31, les étoiles aussi. Là, on va voir aussi M31 qui est très très spécial, hein, qui n'est pas du tout comme la Voie lactée, en fait, qui est notre proche voisine, mais qui a beaucoup d'interactions. Ici, c'est Andromède telle que vous la connaissez. Puis vous voyez un petit peu la taille. Elle va rejoindre M33 ici, qui va interagir. Et on a énormément d'interactions avec beaucoup de satellites. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est regarder un par un les nébuleuses planétaires qui sont des étoiles vieilles, comme le Soleil, et qui ont éclaté en nébuleuses planétaires, qui ont rejeté leur enveloppe et qui permettent de détecter la vitesse avec l'arrêt de O3, qui est très particulière. Et donc, on a pu ainsi mettre en évidence un disque mince et un disque épais aussi dans M31. Alors, pourquoi il est mince et il est épais? Le mince, il est dans le plan, il est obscurci par la poussière, donc on arrive à détecter la différence. Et on voit que les gradients, en fonction du rayon, sont nuls, c'est-à-dire que toute l'interaction que subit notre voisine Andromède ont éliminé les gradients de métallicité que l'on voit, par exemple, dans notre galaxie. Donc, ça, ce sont les modèles qui ont été faits, hein, le modèle de gaz, il y a un anneau de gaz dans le M31, et puis des modèles qui montrent que l'efficacité de formation d'étoiles en fonction du temps ne varie pas et les gradients sont plats. Ok, donc je termine en disant qu'on comprend maintenant bien, et j'espère que je vous l'ai convaincu, que l'abondance des éléments est bien expliquée par la fusion dans les étoiles et puis les processus rapides ou lents de capture de neutrons. On arrive à expliquer toutes ces pics ici de stabilité et on peut maintenant développer ces marqueurs chimiques pour expliquer la formation dans les galaxies des éléments, donc des disques minces, des disques épais, des bulbes, et tout ça fonctionne assez bien. Donc je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.